Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça me fait rire. À chaque fois, je dis le même début, mais je suis très heureuse. Mais c'est vrai que je suis très heureuse de vous retrouver parce que j'aime vraiment. J'aime cette émission, Mission Vision, mais c'est parce que je rencontre des humains extraordinaires. Donc, on dirait que ça me remplit de joie. Et aujourd'hui, eh bien, je continue dans la joie parce que je vais recevoir deux belles invitées. On va commencer avec Denise Baudry, qui va être en studio. Et tout de suite après, Mélanie Côté, ma chroniqueuse du bonheur, justement, va venir me rejoindre et on va faire un petit moment entre Mélanie et Annie Perrault, psychologue. Et on va parler d'hypervigilance. Là, j'avais mis la table à sa dernière chronique. Et là, je m'étais dit, quel sujet intéressant l'hypervigilance pour les personnes en situation de handicap visuel. Donc, on va pouvoir en parler à 11h30. Mais pour l'instant, Denise est avec moi. Bonjour, Denise.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Je suis vraiment contente, Denise. Je l'ai rencontrée lors d'un reportage. On faisait un reportage à Amy Télé avec Audrey-Anne Bouchard, qu'on connaît aussi, que j'ai reçue dernièrement. Et c'était pour une pièce de théâtre, Fragments, qui était en lien avec l'handicap visuel. Donc, on faisait vivre l'expérience de la scène, finalement, pour des personnes en situation de handicap visuel. Donc, on s'était rencontrés à ce moment-là. Et je me rappelle, quand je faisais la pré-entrevue, y avait des choses à dire, là. T'sais, c'était un bagage de vie que je trouvais vraiment intéressant. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, on peut pas tout parler de tout ça pendant le reportage. Donc là, moi, quand j'ai su que je pouvais vous recevoir, ben là, tout de suite, j'ai dit, là, c'est merveilleux. On va pouvoir justement en apprendre davantage sur votre histoire, parce que vous avez quand même plusieurs années d'expérience, on pourrait dire.
Mm-hmm.
Hein?
Oui.
Sans dire votre âge, mais vous êtes à la retraite.
Oui.
C'est ça. Et Denise, pour commencer, j'aime ça tout le temps dire un petit peu c'est quoi la condition visuelle pour aider les auditeurs et auditrices, là. Donc, est-ce que c'est de naissance? Qu'est-ce que c'est la condition visuelle du départ, là?
Ma condition visuelle, je vais la résumer rapidement. Moi, je ne vois pas du tout. J'ai une cécité totale,
ouais.
C'est souvent la question.
Oui.
Quand on est demi-voyant, quand on ne voit pas, c'est différent. J'ai perdu un œil à 11 ans et j'ai perdu l'autre œil à 20 ans.
Et donc, maintenant, à 11 heures, vous dites perdu la vision, l'œil, dans le fond, c'est la vision.
Oui.
OK, c'est ça.
Et à 20 ans, j'ai perdu un autre œil. Et là, okay. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup
mais
d'années
oui.
que je ne vois pas.
Donc, depuis 20 ans,
oui.
Il y a une cécité complète.
Oui.
OK. Et c'est quoi la maladie? Et
c'est le glaucome qui a atteint l'œil.
OK. Au point d'avoir complètement... Parce que souvent, le glaucome, il va avoir des gouttes, il va avoir aussi l'opération. Des fois, ils font comme un petit trou. Tout ça, ça veut dire qu'ils ont tout fait ça et ça n'a pas fonctionné.
En fait, ça dit un peu mon âge, mais ça fait très, très longtemps. Donc, il y avait pas de médecine auprès des enfants en ophtalmologie spécifique.
Okay.
Alors, c'était avec les adultes.
Mm-hmm.
Il y avait beaucoup moins de gouttes. Les opérations étaient beaucoup plus risquées.
OK, OK. Donc, au niveau de maintenant, le glaucome, c'est plus du tout la même chose, là. Il y a eu des avancées depuis, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, là.
Oui.
OK. Donc, ça veut dire qu'à 20 ans, c'est terminé, il n'y a plus de vision. OK. Mais là, vu que, parce que c'est ça, comme je dis, on va taire votre âge vénérable, mais au niveau de l'école, parce que là, Jacques Ouellette, c'est une école qu'on connaît très bien, mais probablement qu'elle n'existait pas à l'époque.
C'est ça. À l'époque, ça n'existait pas. Moi, j'ai été dans les derniers qui sont allés au pensionnat. Je suis allée au pensionnat à Montréal de 11 ans jusqu'à 16 ans.
OK.
En fait, là, ça veut dire sixième année jusqu'à secondaire 4 et secondaire 5. Là, on retournait chez nous. Je viens de Trois-Rivières. On retournait à Trois-Rivières. Et là, j'ai fait le cégep. J'ai fait l'université.
En quel domaine?
J'ai fait travail social. Mm-hmm. Ensuite, j'ai fait un bac en psychologie, puis j'ai fait une maîtrise en orientation. Puis mon métier, ça a été comme travailleuse sociale, principalement.
Bien, de là pourquoi que je dis que quand j'ai fait ma pré-entrevue, bien, on avait ça en commun. Là. Donc, moi, c'est sûr qu'en plus, quand je parle avec quelqu'un qui a une historique au niveau de la relation d'aide, bien, déjà d'emblée... Il y a quelque chose qui se passe. Donc, une vie de travail social avec un handicap visuel, bien, une cécité complète. Ça ressemblait à quoi?
Bien, le fait d'être travailleuse sociale, je pense que comme tous les travailleurs, on traverse toutes sortes de périodes, mais moi, j'ai eu vraiment un métier extraordinaire. Mmh. Puis je pense que si... Si j'ai traversé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles, je pense que les rêves sont possibles, dont celui-là.
Parce que c'était vraiment un rêve de travailler comme travailleuse sociale, finalement?
Bien, en fait, je couperais la phrase en deux.
Oui.
C'était un rêve de travailler. Et je pense que pour toute personne, que tu sois une femme, que tu sois une personne handicapée, c'est d'avoir une autonomie économique par un travail.
Mm-hmm.
Si tu peux.
Oui, c'est ça. OK, mais là, parce que justement, d'avoir un handicap visuel et d'être travailleuse sociale, ça prend un milieu qui va être ouvert à... Donc, ça veut dire que ça a été le cas.
En fait, c'est que ce que je dis, parce que moi, j'ai 4 filles.
Oui.
Alors, ce que je dis à mes 4 filles, entre autres, c'est que c'est comme un chum, tu sais. Tu peux te présenter à 10 employeurs. Il y en a 9 qui te disent non, mais ça n'en prend juste un qui dit oui.
Oui, exact.
Celui qui dit oui, selon mon expérience, souvent, ça va être... il ne sait pas trop comment il va s'y prendre, mais il dit oui. Puis, il dit, on verra dans l'expérience.
Ouais.
Et une fois que tu es à l'emploi, s'il y a de l'ouverture, moi, ce que, entre autres, une chose que j'ai observée dans toutes les expériences que j'ai eues, j'étais dans le réseau de santé. Dans le réseau de la santé, j'avais un employeur. On était divisé par équipe, donc il y avait plusieurs supérieurs. Okay. Mais la personne qui s'occupait de tout ce qui était spécifique comme adaptation n'était pas mon chef d'équipe, n'était pas mon directeur. C'était une personne à la direction qui s'occupait de tout ce qui était... CNSST ou particularité. Alors, elle, quand je lui parlais, puis qu'il fallait acheter tel matériel, c'était pas mon équipe qui payait pour ça. C'était vraiment à cette personne-là que j'expliquais mes besoins. Fait que ça, c'est un... Parce que souvent, quand on est à l'emploi et qu'on a à négocier avec le supérieur immédiat, c'est pas facile parce qu'on veut pas trop faire de demandes.
Oui.
Et puis, l'autre chose aussi, c'est que moi, j'ai toujours eu, même s'il y avait des collègues, je sais pas moi, qui changeaient souvent ou que j'en avais plusieurs, il y en avait toujours un ou deux qui étaient très, très ouverts puis qui me soutenaient. Qui disait « Let's go, Denise, continue. » Fait que ça, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, il y a toujours eu une personne en quelque part qui m'a soutenue beaucoup.
Oui.
Oui.
Mais là, dans le fond, c'était au niveau du système de santé, là. Vous étiez à quel titre au niveau de l'emploi, là?
Travailleuse sociale.
Travailleuse sociale auprès des enfants, des adultes,
des
sciences intellectuelles. OK, des adultes. Mais là, est-ce que c'était de se... Parce que je sais que des fois, il y a question de se déplacer dans des milieux. Même des fois, ils vont demander, ils vont exiger d'avoir une voiture, un permis de conduire pour avoir postulé une puis un autre, puis un autre. Là. Mais ça a peut-être changé depuis. Mais moi, c'était beaucoup, beaucoup ça au niveau du public, là.
OK.
C'était ça. Mais, OK, mais vous, à ce moment-là, c'était quoi votre travail, finalement?
Au niveau du public, quand j'ai passé des entrevues, je vais donner un exemple, OK? Ça fait plusieurs années, là. Fait que ça peut avoir changé.
Oui, c'est ça.
Actuellement.
Mais c'est un CLSC? Mais
quand je me suis présentée en entrevue à un CLSC, mm-hmm. je suis arrivée, je me suis assise et deux minutes plus tard, on m'a dit « Non, on ne vous embauche pas, vous ne voyez pas.
Ah! »
Fait que je suis sortie.
Ils ont dit ça clairement.
Ensuite,
oh, okay.
quand j'étais le poste que j'ai occupé comme travailleuse sociale, mm-hmm. là, ça a été complètement différent mm-hmm. parce qu'ils ont dit « Oui, c'est vrai que l'exigence est... une auto et
ah!
comment pouvons-nous okay. trouver une alternative? » Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont permis de payer un taxi.
Wow.
Et annuellement, financièrement, ça ne revenait pas plus cher que payer un employé avec son auto.
Ah, ben!
Fait qu'au niveau financier, mais fallait que je trouve une personne dans cette boîte-là, dans cet endroit-là,
ouais.
qui pouvait dire oui à ça. Parce qu'il y en avait d'autres mais qui n'étaient pas d'accord du tout.
Mais non, c'est ça.
C'est les déplacements, c'est vraiment... Moi, je peux me déplacer facilement avec ma canne blanche à Montréal. Mm-hmm. Ça, ils savaient que j'étais autonome.
Ouais.
Mais la condition du permis de conduire et d'un mm-hmm. auto était là. Ça a eu... Ils ont trouvé une façon. On
mais
va
ça
dire
veut
ça
dire,
comme
ça. Ça veut dire, dans le fond, que vous vous déplaciez dans les maisons.
Oui.
C'est ça, chez les personnes,
oui.
directement.
Oui.
Et ils ont accepté.
Oui.
Wow! Et c'est quand même très inspirant de voir que c'est possible parce que, ben, c'est finalement la boîte en tant que telle qu'eux autres, il y avait cette ouverture-là, mais que même le poste était pas fidèle à ce que c'était parce que... Fait que dans le fond, ce que ça dit aussi aux gens, c'est de dire, ben oui, mais même si c'est un poste qui dit voiture, permis, puis que vous l'avez pas, ben essayez-vous. On le sait jamais.
Oui.
C'est quoi le pire qui va arriver? C'est qu'ils vont vous dire non, hein?
Oui, et puis je pense que quand tu as un handicap visuel, tu as à développer, je m'excuse le mot, c'est lutte, mais c'est pas ça que je veux dire.
Oui, mais on comprend bien, là.
C'est ça. C'est que même si tu es à l'emploi depuis 10 ans, mm-hmm. ils peuvent tout changer
oui.
et dire « Ah là, ça prendrait
plus.
Un auto. » Alors,
oui.
il faut que tu trouves une personne, que tu te débrouilles, que tu mettes le temps pour trouver quelqu'un qui va dire « Attends, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. »
Mm.
Fait que faut garder espoir et mettre le temps et croire vraiment que ça vaut la peine mm-hmm. de travailler et d'avoir son autonomie.
Oui. Et là, ça veut dire que dans le fond, là, vous avez travaillé toute cette période-là. Là. Dans le fond, vous avez travaillé comme... Vous étiez, dans le fond, travailleuse sociale jusqu'à être à la retraite.
Oui.
Wow. Wow. Ça veut dire que vous avez fait un métier, le métier que vous aviez étudié pour faire, et voilà... Ouais, je trouve ça très beau, très, très beau, parce que c'est pas ce que j'entends le plus souvent. Et je veux dire, même moi, là, mon expérience personnelle, mais aussi avec les gens que je rencontre. Donc, moi, je trouve ça fabuleux de voir que vous avez pu être travailleuse sociale toute votre vie.
Et je comprends difficilement comment ça se fait que, je sais pas moi, en 40 ans, ça n'a pas progressé plus que ça.
Bien, c'est pour ça, oui.
Et ça l'a progressé au niveau des femmes. Je prends cet exemple-là qui est très boiteux, je le sais. Mais les femmes étaient à la maison et travaillent maintenant.
Mm-hmm. C'est beaucoup plus. Là.
Les personnes non-voyantes dans les années 50 ne travaillaient pas, n'avaient pas d'enfants, faisaient pas manger. Maintenant, ils font tout ça.
Bien sûr. Et là, vous avez 4 filles. Oui. Parce que je me rappelle quand on s'était parlé au téléphone, vous avez 4 belles filles, vous avez votre mari pour les 4 enfants, là, dans le fond. Là. Donc,
oui.
La belle petite cellule familiale aussi, là.
Oui.
Depuis toujours.
Oui.
Bien, toujours depuis l'âge que c'est possible. Ça veut dire que c'est le même mari, là.
Oui,
c'est
oui,
ça,
oui.
Là. Ben, c'est aussi, c'est inspirant, hein, de
oui,
dire...
Oui, oui. Vraiment extraordinaire.
Ben oui.
Une relation,
ben,
vraiment.
Oui. Combien d'années que vous êtes...
50 ans.
C'est ça. Donc, ça fait 50 ans que vous êtes mariés.
Puis les 4 filles, on a vraiment
les 4
des
filles
relations.
Ont quel âge?
Faut pas que je me trompe. Hein?
À peu près.
Ils ont toutes dans la trentaine.
Oui,
les
c'est
4.
Ça, ils ont dans la trentaine.
Et puis, qu'est-ce que je trouve, c'est... Moi, je les appuie beaucoup au niveau de l'emploi et du travail. Et pour moi, c'est l'autonomie financière.
Oui.
Qui est très importante.
Ah,
et
oui.
Ensuite, tu peux te payer ce que tu veux au niveau de ta résidence. Tu peux... Tu as une latitude.
Moi, je suis tout à fait d'accord parce que moi, je suis... dès que j'ai commencé à me projeter, là, que je voulais travailler, moi, c'était clair que c'était ça. Là, c'était de dire, non, mais là, moi, là, je vais être autonome, là, puis c'est pas vrai, je vais pas être invalide, puis je vais pas me ramasser que finalement, je vais devoir compter mes cents toute ma vie. Fait que non, je vais étudier et je vais faire le métier qui me tente. Bon, là, après ça, j'ai eu des enjeux au niveau des employeurs. Là. Moi, c'était au niveau commission scolaire. Là. Donc, je ne suis pas travailleuse sociale, mais je suis éducatrice spécialisée. Mais ça reste que moi, ça a été un enjeu. Mais j'ai dit, c'est pas vrai, là, ça ne va pas m'arrêter. T'sais, parce que pour moi, c'était clair que je voulais avoir mon autonomie. Mon autonomie, pour moi, c'est mon autonomie de dire, hey, je prends mes 2 jambes et je marche et je m'en vais faire mes commissions. Mais c'est aussi pour dire que ben, je suis capable de faire mes commissions et je peux m'acheter la nourriture et avoir un sentiment d'être complètement épanouie dans... moi, juste le fait d'aller faire mes commissions, c'est comme un bonheur. C'est ça que je dis aux gens. Je dis, non, mais vous comprenez pas, là. Moi, juste le fait que je fais mes commissions toute seule, je suis heureuse de ça. Alors que je sais qu'il y a plein de gens autour de moi qui sont vraiment dans l'espèce de métro-boulot-dodo, là. Ah, oh, faut faire les commissions. Ben oui, mais moi, c'est parce que je me déplace physiquement. Et pour moi, ça, c'est hyper important, là.
Oui, puis quand tu as beaucoup de difficultés et d'obstacles au niveau de l'emploi, moi, on les a toujours encouragés au niveau de l'éducation parce que je me disais toujours, tu sais, ça dépend... jusqu'où tu veux aller au niveau de l'éducation, puis ta capacité.
Bien sûr.
Et si tu ne vas pas assez loin par rapport à ta capacité, tu peux avoir de la déception. Puis c'est très important de développer ça. Puis je pense que nos 4 filles, ils s'aperçoivent que même s'ils traversent énormément de choses... que ça vaut la peine, parce qu'à la fin de tout ça, quand ils dépassent quelque chose, c'est gagnant pour eux autres, pour être bien. Puis, tu sais, on ne peut pas tout réaliser dans vie. Tout est possible, mais finalement, tu t'aperçois que tu es dans un petit carré de sable, là. Il n'y a pas de... Il y a plusieurs affaires que tu ne réalises pas, tu sais.
Oui. Et vos 4 filles, est-ce qu'ils ont... Il y a des handicaps visuels là, dans ces 4-là?
La plus vieille, elle a un handicap visuel. Elle voit beaucoup, là. Elle n'a pas de limitation. Elle est très, très limite.
Et la plus... À quoi? Elle a un handicap visuel, mais elle voit beaucoup. Donc,
oui, c'est ça.
Elle a encore un bon résidu visuel.
Oui, elle n'a pas besoin d'adaptation du tout.
OK, elle ne marche pas avec un scan, elle n'a pas de lunettes.
Non, c'est ça, l'écriture, la lecture. En fait, quand tu ne vois pas, il y a les déplacements,
ben
l'écriture,
oui.
La lecture.
Oui.
Fait qu'elle, elle n'a pas de limitation à ce niveau-là.
OK.
C'est très, très limite.
Oui.
Puis la plus jeune, elle a eu plus de difficultés. Fait qu'elle, sa vision est ta limite aussi, mais plus... c'est pas clair ce que je dis.
Elle voit moins bien.
Oui, c'est ça. La vision est moins claire.
Il n'y en a pas qui ont moins une cécité comme
pas
vous.
Du
là,
tout.
C'est ça.
Pas du
mais
tout.
La plus jeune, elle a un handicap visuel qui l'impacte un petit peu plus
oui,
que
c'est ça.
La plus vieille.
C'est ça. Et okay. C'est difficile pour les gens... C'est difficile pour les gens de, en général. Là, je
oui.
parle de façon très générale.
Oui.
Parce qu'ils vont penser que quelqu'un qui est demi-voyant, il ne voit pas,
oh, ben
ils sont
oui.
tout mêlés. Hein,
ben
fait
oui,
que
ben
ça,
oui.
c'est ça.
Oui, oui, souvent, c'est comme ça. Tu vois bien ou tu es aveugle.
Oui, c'est ça.
C'est à peu près ça, mais finalement, oui. on se rend compte qu'il oh, oh, y a beaucoup de zones grises à travers ça. Là. C'est vraiment
c'est
un
ça.
Spectre de vision, là.
Puis
ouais, ouais.
je pense que le plus important, c'est que ça soit la plus jeune ou la plus vieille, c'est qu'ils comprennent bien leurs limitations, mm-hmm. s'ils en ont. Puis
ouais,
si jamais ça progresse, ils sont au courant de... Ils développent de la débrouillardise.
Mm-hmm. Est-ce que justement les deux... Ils ont du glaucome? Parce que vous, c'est le glaucome?
La plus jeune a du glaucome.
OK.
Fait que s'il y a du suivi, puis le suivi est excellent.
Donc, ça veut dire que vous, vous avez le glaucome, et ça veut dire que c'était héréditaire? C'est que...
Non.
Non, pas du
Moi,
tout?
Moi, on est 9 enfants, puis je suis la seule qui
OK.
a...
Oui. Mais est-ce qu'ils vous avaient dit, les médecins, si vous
Dans
avez
ce temps-là,
des enfants...
Non.
Non. Il pourrait...
Non.
OK, OK.
Dans ce temps-là, c'était quelque chose qui disait pas...
Il disait pas.
Ouais, c'est
ouais,
ça.
Okay.
On va résumer ça
ouais,
comme
c'est ça.
Ça.
Mais votre mari, lui, il voit?
Oui.
Il n'a pas du tout d'handicap visuel?
Non, pas du tout.
OK, c'est ça. Donc, ça veut dire que de là, pourquoi qu'au niveau de vos filles, ben il y en a une qui a le glaucome, mais les trois autres, finalement, ils n'ont pas de glaucome.
En fait, à la naissance, moi, j'ai aniridie, qui s'écrit A-N-I-R-I-D-I-E.
Oui.
Aniridie.
Oui.
C'est l'iris qui est très, très mince au niveau de l'œil, qui ne s'est pas développé complètement.
OK.
Puis, qui ne s'est pas développé complètement quand ma mère était enceinte,
mm-hmm.
là. Puis ensuite, ça, je voyais pas mal, mais le glaucome s'est développé à l'âge de 9 ans.
OK, OK.
Puis là, ils ont opéré à 11 ans et j'ai perdu l'œil.
OK.
Et l'autre œil a diminué.
OK.
Fait que là, moi, étant donné que j'ai l'aniridie,
oui.
Là, la plus jeune, elle a l'aniridie.
Ah, elle a ça aussi.
Elle avait une chance sur deux d'avoir l'aniridie.
OK.
Et elle fait du glaucome.
OK, OK.
C'est le glaucome qui affecte la vision mm-hmm. en général.
Donc, ça veut dire que c'est dégénératif.
Ben,
pour la plus jeune.
Dégénératif. C'est pas dégénératif
non.
comme
la DMLA, là.
Oui, c'est ça.
OK, OK.
T'as le glaucome, il traite le glaucome.
OK, OK.
Comme chez les personnes âgées, ils vont traiter le glaucome et ce n'est pas nécessairement dégénératif.
Oui.
C'est
oui.
pas tout à fait pareil.
Mm-hmm.
Puis la plus vieille, elle a un aniridie.
Aussi?
Aussi, mais sa vision, elle n'a pas fait de glaucome.
Ah.
Elle fait que sa vision est assez bonne.
OK.
C'est ça.
Donc,
fait que okay. Mais ça varie.
Et votre mari, là, quand vous l'avez rencontré... Lui, il n'a pas d'handicap visuel. Vous,
non.
vous avez un handicap visuel. Est-ce que, justement, il y a eu comme des enjeux là, par rapport à ça?
Bien, c'est sûr que lui, il fallait qu'il réfléchisse comme du monde. Là. Il a pris le temps de réfléchir. Puis il a choisi.
Il a dit, ça me tente quand même.
C'est ça. Fait que c'est possible.
Bien, c'est très possible. Bien oui, et surtout de dire 50 ans en plus de relation. Là. Donc, c'est vraiment possible.
Oui, puis je dirais que, tu sais, le fait d'avoir des enfants,
mm-hmm.
moi, je me suis dit, parce que t'as pas beaucoup de modèles, là,
ce, mm-hmm.
Quand tu as des enfants.
Mm-hmm.
Alors, je me suis dit, bon, ben avec mes enfants, je vais faire comme ce que je fais pour moi.
OK.
Tu sais, je suis capable de faire à manger, je
oui.
me fais à manger, je fais à manger pour eux.
Oui.
Au niveau de la maison, autour, dehors, je sécurisais très bien.
Mm-hmm.
J'utilisais tous mes sens, le toucher, l'ouïe, ouais. Tout ça. À l'intérieur aussi, je sécurisais les planchers quand ils sont tout petits, mm-hmm. bon, tout ça.
Mais en fait, c'est ça, c'est de dire que tout ça, ça se fait, mais ça se fait avec des adaptations, ça se fait différemment. Parce que, tu sais, souvent, ça va être associé à, oh mon Dieu, hey, ça peut ne pas être sécuritaire d'avoir, tu sais, justement, des enfants à sa charge. Et pour l'avoir vécu, vu que je travaillais avec des jeunes et tout ça, mais c'est ça, c'est comme si le cerveau, il comprend comment adapter. C'est sûr que je ne ferais pas une surveillance à 400 mètres, là, tu sais. Ma surveillance, je vais la faire à 10 pieds, là, tu sais, 10 pas, là, tu sais, je veux dire un bras de distance. Tu sais, mais c'est ça aussi, c'est dire on fait les choses d'une certaine façon. Donc, vous êtes capable de changer une couche d'un enfant, mais c'est sûr que ça se fait différemment parce que la personne qui voit, ben, elle se fie à ses yeux. Mais vous utilisez plein d'autres sens.
En fait, c'est que oui, puis ce que je m'aperçois comparé à il y a 30 ans, c'est exactement ce que tu viens de nommer. La sécurité est quelque chose qui est rendu vraiment là, prioritaire.
Mm-hmm.
Et ça, moi, quand je travaillais dans le système de santé, j'ai vu progresser ça, comment les gens vivent de l'insécurité de tout, de tout.
Oui, mais on l'entend dans votre voix, là, que c'est pas vous, ça, là.
Et puis, l'insécurité, quand t'es parent, c'est normal. Mais c'est pas normal que ça dure.
Mm-hmm.
Fait que les inquiétudes de sécurité, chaque époque a ses
dada, défis, là. Mm-hmm.
C'est ça. Mais dans le temps, c'était moins présent. Moi, je pense que c'est beaucoup plus la débrouillardise,
oui,
que les adaptations.
Bien, ça, on le voit tout de suite que vous êtes une femme débrouillarde. Denise, c'est tout le temps qu'on avait. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été... moi, je suis très contente parce que je trouve que vous êtes tellement un beau, beau, beau modèle. Moi, ça me donne énormément d'espoir et je suis convaincue que ça va faire ça avec aussi nos auditeurs et nos auditrices.
Parfait.
Merci, Denise. Et tout de suite après la pause, Mélanie Côté s'en vient. On va rejoindre Annie Perrault. On va parler d'hypervigilance. À tout de suite.
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Et maintenant, j'ai en studio Mélanie Côté, mais on va aller rejoindre Annie Perrault, psychologue, pour parler d'hypervigilance. Allô, Annie.
Bonjour, Julie.
Comment vas-tu?
Oh, très, très bien, merci. J'espère que vous allez bien de votre côté.
Ben moi, je vais très bien. Mélanie, comment vas-tu?
Je vais très bien, formidablement bien. Je suis à Montréal aujourd'hui.
Wow. Bien sûr, à Montréal, en studio. Annie, on va parler d'hypervigilance parce que lors de la dernière chronique, c'est comme si c'est venu naturellement sur dans la discussion. Et là, j'ai dit tout de suite, oh, ça ferait vraiment un beau sujet pour une prochaine chronique.
Ouais.
Parce que je trouve qu'on parlait du traumatisme et de là est venue l'hypervigilance et que je disais que les personnes en situation d'handicap visuel sont constamment en hypervigilance, là. Ah ben, je dis constamment. En tout cas, moi, de mon vécu, je suis plus souvent en hypervigilance que pas en hypervigilance.
Sauf quand on dort, on n'est pas en hypervigilance.
Ben, c'est ça. Ce qui veut dire que dans une journée... Il y a beaucoup de moments où est-ce qu'on est en hypervigilance, ne serait-ce que juste même quand je coupe un légume, puis que là, j'ai coupé, puis pouf, il y a quelque chose qui a revolé, puis là, je fais « oh non, OK, il y a des petits bouts un peu partout. » Tu sais, il y a naturellement un sentiment d'hypervigilance.
OK. Alors, on va essayer de décrire ce que c'est d'abord.
Oui.
L'hypervigilance, là, c'est un symptôme, un peu comme la fièvre pour la grippe. Mm-hmm. Ça indique quelque chose. C'est un mécanisme de survie qui est commandé par le cerveau pour nous protéger d'éventuels dangers.
Oui.
Donc, l'hypervigilance, ça va être vraiment un symptôme qu'on va retrouver dans des conditions bien spécifiques, comme un stress post-traumatique,
oui.
une anxiété, trouble panique, chez la dépression, chez certaines personnes avec des traits de personnalité. Il y a des fois des conditions dégénératives comme des démences, mais aussi des troubles de santé qui vont générer une forme d'hypervigilance parce que c'est un trouble endocrinien, par exemple, la thyroïde.
Oui, oui.
Donc, être en vigilance, en état de vigilance, je surveille mon environnement, puis d'être en hyper-vigilance, ça va être vraiment... C'est comme si on pouvait mettre une petite fièvre puis une grosse fièvre.
Une petite fièvre puis une grosse fièvre.
Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'avec ça, vient plein d'autres symptômes qui vont venir.
Oui.
Puis je donne l'exemple, par exemple, quelqu'un en hyper-vigilance, typiquement, il va avoir vécu des situations qui vont s'accumuler puis qui vont faire que l'organisme a un système nerveux en surproduction, en surprotection.
Mm-hmm.
Donc, on va être fixé d'une façon extrêmement importante sur notre environnement, sur nos pensées, nos sentiments par rapport aux autres ou encore sur notre propre corps ou notre esprit.
OK.
Alors, donc, là, lorsqu'on nous manque un sens, c'est sûr que là, il y a quelque chose qui fait qu'on doit porter plus attention à notre environnement.
Mm-hmm.
Puis c'est possible qu'effectivement, à cause de l'accumulation des situations dangereuses ou potentiellement dangereuses,
oui.
bien, on va devenir plus vigilant.
Donc, ça veut dire que finalement, comme tu dis, c'est vraiment cette accumulation-là d'événements qui amène un stress et que là, on dirait que c'est le corps qui garde comme une trace de ça et naturellement, il revient plus en hypervigilance.
Oui, il va être plus à la recherche des signaux de danger puis même à les anticiper d'avance. Qu'il n'y en a peut-être pas.
Ah,
donc, ça va générer aussi un mécanisme qui peut être de l'évitement ou de l'insécurité, qui rend en fait la détente difficile à atteindre.
Mm-hmm.
Notre système nerveux devient en mode surveillance accrue,
oui.
réaction hyper rapide.
Donc,
bien vite.
Mais de là, quand tu dis l'évitement, ben dans le fond, c'est comme si on s'empêche de vivre des situations. Puis c'est ça qui fait que tout d'un coup, on a un apaisement, mais dans le fond, c'est parce qu'on évite d'y aller.
Oui, on évite, puis même, ça peut amener à des troubles dans les relations, par exemple. Je vais mentir pour pas aller à tel endroit parce que je crains des choses.
Ben oui, OK.
Ça peut amener une méfiance envers certaines personnes.
Ouais.
Ça peut amener, par exemple, encore une autre chose, ça va être un besoin d'être rassuré constamment. Fait, au niveau relationnel, ça peut créer des impacts.
Jouer.
C'est pas banal.
Non, c'est ça. Toi, Mélanie, quand t'entends ça, hypervigilance, est-ce que ça te parle?
Ben moi, ça me parle de plus en plus parce que j'ai une perte visuelle là, depuis un bon 2 ans de plus.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, c'est de s'empêcher d'aller marcher parce qu'il va peut-être avoir de la glace.
Ouais.
C'est de dire non à des amis qui veulent aller à quelque part. Mais ça va être trop compliqué, il va y avoir trop de monde. Donc,
ouais.
À un moment donné, il y a une forme d'isolement, je pense, qui peut se créer. Fait que
ben,
je suis d'accord avec ce qu'elle dit.
Oui, puis ce que tu dis, c'est exactement ça, de l'évitement, parce que moi, je sais que c'est quelque chose que je fais aussi, de l'évitement, tu sais, de dire « Oh non, je ne vais pas sortir dehors, là. Je le sais que là, ça va être glacé, ça me tente pas de gérer ça. » Mais là, je vais m'éviter une hypervigilance, parce que je sais que si je sors dehors, je vais être vraiment en hypervigilance parce que là, chaque pas mélangé avec la canne, tout ça, c'est un enjeu. Mais il y a des fois que je me dis non, c'est pas vrai. Tu sais, comme là, c'est important, je m'en viens à la radio. En fait, c'est comme j'ai pas le choix. Tu sais, on dirait que le cerveau, il s'en va dans une zone de j'ai pas le choix, fait que je ne peux pas éviter. Mais je le sais que pendant mon trajet, je suis en hypervigilance.
C'est plus, ouais, exactement.
À plein de moments, je suis capable de sentir parce que j'ai quelque chose qui me remonte au niveau... c'est comme ça fait un petit une petite pression au niveau du plexus, quand il y a comme une petite situation ou tu sais, un auto qui te coupe ou tu te dis « Ah, pourquoi elle était rouge? Il peut pas avancer. » Mais il avance ou tu sais, ces situations-là. Fait que là, on dirait que tu en accumules à peu près 45 dans un trajet.
Ouais.
Ça fait que moi, naturellement, je me sens un peu comme si j'avais pris 4 cafés de plus.
On a comme un petit baromètre, je pense, aussi d'énergie. Oui. Tous les matins, on se lève. OK, c'est quoi mon baromètre d'énergie aujourd'hui? Puis dans quoi je vais investir? Je vais-tu choisir de faire telle ou telle chose? Mais je pense qu'on en élague aussi beaucoup avec une perte visuelle.
Oui, complètement. Puis c'est ça, c'est pour ça que je trouvais ça important de l'hypervigilance, parce que même... Quand je faisais mon training à l'Institut Nazareth et Louis Braille, c'est ça qui m'expliquait. Mm-hmm. Il y a un moment donné, une situation où est-ce que... ça fait pas si longtemps là, que j'ai un handicap visuel avec la... mais que je suis rendue avec la canne blanche, ça fait pas encore si longtemps. Et à un moment donné, la canne est tombée dans un trou. C'est comme si la canne, elle a vraiment... descendu de 8 étages et je me suis rendu compte que, tu sais, tout de suite, je me suis dit, ça y est, je le sais, il y a un cratère, il y a un trou, il y a une crevasse, il y a, tu sais, fait qu'on dirait que j'ai tout de suite paniqué et à Louis Braille, il me disait juste, non, mais Julie, tu sais ce que tu aurais pu faire aussi, c'est juste arrêter, prendre 5 secondes pour respirer. Puis là, j'ai dit, « Oh mon Dieu, mais je respire tellement pas, parce que quand je me retrouve dans une situation comme ça, je dois gérer, là. » Alors là, tout de suite, « OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? OK, c'est-tu correct? » Puis après ça, je repars mon chemin, là. On dirait de s'arrêter, juste de dire, « Hey, wow, là, tu viens de vivre quelque chose, là. »
Il doit y avoir des petits trucs pour aider au quotidien, de nous aider au niveau de l'hypervigilance. Il doit y avoir des moyens.
Effectivement, là, c'est de comprendre comment... Parfois, l'hypervigilance amène des confirmations. Tu vois, j'avais raison, c'était dangereux, par exemple. Puis là, il faut déjouer cette confirmation-là qui s'est accumulée, puis ramener dans notre existence le fait qu'il y a plusieurs fois où ça s'est bien passé, mais on les oublie plus.
Oui, ben oui.
Une chose.
Oui.
Donc, c'est ça, hein? On a des biais cognitifs qu'on dit, ben, tu vois, j'avais raison, tu vois, c'est encore vrai, etc. Donc, le fait de s'arrêter, de respirer, de se réorienter, prendre soin de l'environnement, puis dire, OK, t'as peu, qu'est-ce qui se passe là? On rétablit la réalité.
Oui.
Puis oui, des fois, la réalité est dangereuse. Des fois, oui, ça nous arrive. Mais elle est probablement moins que ce que notre corps nous fait croire quand on est en état d'hypervigilance. Mais reste que la vigilance dans la situation où il y a une perte de vision, elle est nécessaire, comme si c'est une perte d'ouïe aussi. Donc, il y a une vigilance qui demeure nécessaire, mais comment ne pas être envahi par cet état-là qui se déclenche de façon extrêmement rapide, au quart de tour?
Oui.
Mais c'est là que vous avez parlé de calcul d'énergie. C'est extrêmement important parce que le choix de faire, est-ce qu'aujourd'hui je fais telle activité, est-ce que j'ai les ressources pour le faire comparativement à une journée où j'ai vraiment pas les ressources? Et oui, l'évitement, en guillemets, va être nécessaire et très relié à notre état. Donc, là, à ce moment-là, c'est positif de prendre soin de notre niveau d'énergie.
Il faut rester à l'écoute, je pense, par contre, parce que sinon, on bascule dans un état où, justement, on fait moins de choses, où on évite vraiment à l'extrême. Fait qu'il faut toujours... En tout cas, j'aime pas tellement le mot toujours, mais il faut souvent se regarder puis s'observer, je pense.
Oui, vraiment.
C'est comme si c'est une prise de risque qui devient plus calculée, mais ajustée. On va le dire comme ça. Ça doit être ajusté pour dire, il y a des jours où c'est mieux pour moi, puis des jours où c'est moins bon. Mais si je fais que éviter et croire en mon hypervigilance, je me coupe du monde.
Oui, mais c'est ça, c'est parce que, dans le fond, du moment qu'il y a l'handicap visuel, on le sait qu'il va avoir une vigilance plus importante pour compenser. Mais si, exemple, pendant la situation en elle-même, là, j'ai pas réussi à me calmer, là, parce que, pour vrai, j'ai eu peur.
Ouais.
Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là, à ce moment-là? Parce que ça va arriver des situations où est-ce que, comme tu dis, Annie, il y a un danger pour vrai de vrai. Là. Donc,
pour vrai de vrai.
J'ai vraiment une situation, j'ai un danger. Mais là, après ça, là, moi, là, je l'ai ressenti dans mon corps. Là, il faut que je compense après ça. Là.
Oui, ça ne se désactive pas dans un clin d'œil.
Non, c'est ça.
Il faut vraiment laisser le temps au corps d'apaiser la décharge d'adrénaline.
Ouais.
Aussi, il faut aider notre corps à cette décharge-là, qu'elle puisse se métaboliser. C'est OK, oh wow, j'ai vraiment eu peur.
Oui.
Le cœur me débat.
Oui.
J'ai toutes sortes de pensées dans ma tête.
Mm-hmm.
Mais là, sur quoi je peux me raccrocher pour dire c'est correct?
Mm.
Est-ce que là, c'est correct? Bon, OK, je vais prendre mon souffle, ça va passer.
Oui.
Mais donc, il y a vraiment cette période-là qui peut durer. Là, le temps que ça se métabolise dans notre corps, ça prend pas mal plus que 2 minutes.
Ça peut être long, là.
Oui, ça peut prendre un certain temps.
Oui, c'est ça. Puis est-ce que justement, probablement, que c'est super positif de le sortir un peu de son système, tu sais, de dire, hey, j'ai vraiment eu peur, là, tu sais. J'avais raison d'avoir peur parce que ça, cette situation-là, c'était dangereux.
Quand ce l'est,
c'est ça exactement. Tu sais, de le sortir de son système, là, tu sais, de dire, hey, j'ai eu peur, là.
Effectivement, j'ai eu peur, puis cette peur-là m'a fait toutes sortes de sensations.
Mm-hmm.
C'est des sensations qui étaient fort utiles pour me dire qu'il y avait le danger. OK, là, c'est terminé. OK, je reprends mes esprits, je me donne du temps. Puis on sait que c'est extrêmement fatigant d'avoir une décharge d'adrénaline de peur.
Mm-hmm.
Ça nous épuise, hein? Ça prend beaucoup d'énergie dans notre corps.
Donc, ça se peut que parce que j'ai eu une situation où est-ce que j'ai vécu vraiment une situation d'adrénaline intense, qu'après ça, comme Mélanie a dit, au niveau de sa batterie d'énergie, ça se pourrait qu'elle dise, tu sais, exemple, elle s'était planifiée plein de choses dans la journée, mais que finalement, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de gaz, là. Je veux juste comme...
J'ai besoin de récupérer.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Effectivement.
Mais comment qu'on fait pour faire la différence entre j'ai trop hyper...
Réagi.
Et que là, tout d'un coup, parce que j'ai trop hyper réagi, je suis plus capable de rien faire du reste de ma journée. Là. Tu sais, comment qu'on fait pour dire non, t'as peu, là, ça, c'était pas...
Réajuster.
C'était pas réaliste, là, ça. Là.
Oui. C'est là que c'est vraiment, individuel à chacun, hein, parce que notre réserve d'énergie n'est pas pareille d'une situation à l'autre, d'une journée à l'autre.
Mm-hmm.
Puis il faudra prendre soin comme ce qui est le besoin là.
Est-ce que c'est important, comme quand on tombe en vélo, de rembarquer ou quand on a un accident d'auto? Est-ce que c'est important de ressortir comme rapidement? Est-ce qu'il y a une norme là-dessus? Est-ce qu'il y a des études?
Je dirais plutôt que ce qui est important, c'est de récupérer notre pouvoir dans une situation qui a été effrayante pour nous, avec des bonnes conditions.
Okay.
Donc, de rembarquer sur le vélo, en plein autoroute métropolitaine, très mauvaise idée.
Ça peut, c'est ça, là, être pas une bonne idée de rembarquer tout de suite.
Tout de suite, mais dans des conditions. On pourrait tout de suite, mais si on a des bonnes conditions.
OK. Bien, moi, j'ai vécu une situation de vélo avant, quand j'étais capable de faire du vélo. Il y a un moment donné, je suis sur une piste cyclable et il y a une voiture, dans le fond, elle recule dans son entrée.
Ouais.
Moi, là, ces affaires. Moi, quand je marche, je sais que je suis en hypervigilance. Quand je vois comme une voiture, là, des lumières rouges, tu sais, là, tu le sais, elle va reculer, elle est prête, là. Elle y va, là.
Ouais.
Oh mon Dieu, j'ai ça.
Ouais.
Et là, je me rappelle, j'étais en vélo et la personne, est venue me rentrer dedans directement.
Oui.
Et après ça, je me suis vraiment dit, faut que je rembarque sur mon vélo. Mais j'étais pas capable. Puis pour vrai, j'étais pas capable. J'étais en petite boule sur le gazon à côté, je braillais. Là, et je me suis dit, je pense que là, c'est pas le moment que je rembarque. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai marché à côté de mon vélo.
À côté du vélo. Et oui, voilà.
Là, on dirait que je me sentais plus en sécurité. Mais je me suis quand même dit, attends pas 4 mois avant de rembarquer parce que tu rembarqueras plus.
Mmh.
Fait que je savais que je devais rembarquer rapidement parce que moi, de mon tempérament, j'aurais pu ne plus jamais embarquer.
Mmh. Ça pourrait. Des fois, il faut éviter l'idée que si je ne le fais pas tout de suite, ça va être fini pour toujours.
Oui, c'est ça.
C'est une idée. C'est une croyance. Mais qu'on peut défaire parce qu'on va se donner des bonnes conditions.
Oui.
Alors, c'est vraiment du cas par cas, hein, de faire face à nos situations qui ont été intenses. Tout dépendant de notre niveau d'énergie disponible, des conditions dans lesquelles on veut se désensibiliser ou faire face à la situation qui a été intense. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Puis, il y a des fois des situations qui sont plus, on n'est pas capable d'affronter pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils sont très, très, très intenses.
Oui. Oui.
Alors, ça prend vraiment plus de l'aide professionnelle à ce moment-là.
Ah, oh, absolument. Mais justement, de l'aide professionnelle, toi, tu es psychologue. C'est à quel endroit qu'on peut te retrouver, Annie?
Bien, moi, je suis dans la région de la Nozière, mais on peut me retrouver à travers le web là, sans problème.
Annie Perrault.
Oui.
Psychologue. Parfait. Bien, merci beaucoup, Annie. Ça a été un plaisir, comme à chaque fois.
Merci à vous.
Merci.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée. Bye-bye.
Bye.
On continue avec Mélanie et j'ai trouvé ça tellement intéressant puis je voulais justement t'entendre parce que, ben toi aussi Mélanie, tu sais, là, t'es débarquée de Granby ce matin donc, tu sais, déjà, je me dis, c'est sûr qu'elle a des situations des fois d'hypervigilance et j'étais super contente de dire, hey, même si on parle de bonheur, parce que ta chronique c'est vraiment ça, on parle de la joie de vivre et tout ça, mais qu'à travers ça, ben oui, il y a de l'hypervigilance. Et c'est parce que moi, souvent, je me retrouve un peu à me dire, coudon, je suis la seule que plus je vieillis, plus je suis handicapée, là, tu sens, plus ça progresse, plus je suis en hypervigilance, ouais. Plus on dirait mon système est moins tolérant que il y a 10 ans. Fait que c'est pour ça, fait que là, on dirait, je me dis, ben garde, toi aussi, hein, tu peux voyager, tu peux être dans la joie de vivre, mais aussi avoir de l'hypervigilance et qu'il y a des moments, comme tu dis, que tu fais de l'évitement aussi, tout simplement, là.
Oui, puis c'est normal aussi, parce que même si on fait le bonheur, la minute du bonheur, de la bonne humeur, ben on vit quotidiennement plein de choses aussi.
T'sais,
tout n'est pas tout le temps rose, puis tout n'est pas tout le temps noir.
Non,
c'est
non.
Justement encore de varier au niveau du barème.
C'est
comment on peut jauger, parce que, tu sais, dernièrement, j'ai eu une période un petit peu plus basse, là, puis, OK, c'est d'accepter, c'est de prendre de l'air, c'est
ouais.
De pas vouloir sortir aussi, puis de respecter ça. Fait que,
ouais.
Mais je suis sortie, Julie, voilà 2-3 semaines, à l'œil de Granby, qui est un
oui.
organisme, et aujourd'hui, ben je l'ai intégré un petit peu dans le bonheur de la bonne humeur, parce que c'était tellement formateur.
Oh.
Je suis allée faire du yoga
oui.
avec des personnes malvoyante.
Mm-hmm.
C'était vraiment hyper intéressant parce que, oui, j'ai triché un peu. J'ai regardé, j'ai pas tout fermé mes yeux tout le long de
parce
du yoga.
Parce que sinon, c'est quoi? C'est vraiment, tout le monde a une cécité, finalement?
Oui, bien, pas nécessairement parce que j'ai parlé après le yoga qu'on a fait une heure de temps avec Caroline, Judith, puis Normand. Puis Caroline, elle voit un petit peu, puis c'est ce qu'elle a nommé. Elle dit, ben moi, des fois, on dirait que j'avais le goût de regarder, là.
Ah.
Mais elle dit, là, le professeur, il m'a dit, ben tu ressens plus lorsque tu fermes tes yeux.
Ouais.
Mais elle dit, on est habitué, tu sais, quand on n'a pas totalement perdu la
oui.
vue, c'est sûr que notre vision, on est toujours en train de regarder ce qui se passe. Fait
oui.
qu'elle a apprivoisé ça, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça, parler avec elle par rapport à ça.
Mais tu vois, c'est intéressant parce que moi-même, je me suis challengée avec ça parce que je fais du yoga et puis je fais avec mes lunettes parce que ce que je vois, je veux le voir.
Ouais.
Mais finalement, j'ai commencé à faire du yoga pas de lunettes.
Oh oui.
Et moi, pas de lunettes,
je suis
aveugle.
Ouais.
C'est pas vrai, là. Je veux dire, les peu de taches que je vois, c'est des couleurs. T'sais, c'est comme une belle toile de couleurs, mais je ne peux rien... tu sais, quelqu'un devant moi, je le vois même pas, là.
Mais c'est parfait parce que
mais
moi aussi, je fais du yoga.
Intéressant.
C'est beaucoup mieux en regardant
pas. Mon Dieu, mais c'est tellement... Moi, je me suis rendu compte qu'il y a rien qui me fait déconnecter plus que ça parce que je peux juste être concentrée sur... Lève le bras gauche.
Oui. Puis ton intérieur à toi aussi. Qu'est-ce que tu ressens?
Ouais.
On est beaucoup plus connectés.
Complètement.
Puis Judith, elle disait aussi, après notre petite rencontre, elle dit, on dirait que je suis plus consciente de mon corps.
Ah oui.
Puis, tu sais, des fois, moi, je vais au yoga aussi, puis si on a une bonne enseignante ou un enseignant oui. de yoga, on n'a pas besoin de regarder. Non. S'il non. nomme bien les choses, puis moi, je suis... Je sais pas, là, j'ai pas fait une enquête, mais je dois être une des seules qui voit pas très bien.
Moi, je suis la seule.
Mais pas au yoga à l'œil. Moi, je fais du yoga ailleurs.
Oui,
mais
c'est ça.
Moi, je ferme mes yeux, puis des fois, mon conjoint, il me dit, « Ah, ben on a fait l'arbre, puis telle personne avait de la misère. » Puis moi, je regarde pas ça. Là. Je suis centrée de, « OK, ben moi, je suis capable de le faire aujourd'hui ou pas capable? » Donc, ça crée une certaine intériorité qui est vraiment... hyper intéressant.
Et c'est intéressant quand tu parles du professeur, parce que moi, quand j'ai commencé, je suis vraiment allée la voir, puis j'ai vraiment dit... elle s'appelle Avril, puis dans mon horaire, c'est souvent elle que ça marchait, puis à un moment donné, on a vraiment fait comme un partnership, là. On est devenu là, vraiment... Parce que même elle voyait qu'au fur et à mesure, elle s'améliorait dans ses explications... Mm-hmm. Et c'était rendu qu'elle était en mesure aussi de savoir à quelle distance elle devait se mettre de moi quand j'étais complètement dans le champ.
Ah.
Parce qu'il y a des fois, pour vrai, que... Puis elle était très beaucoup contorsionniste.
OK.
Hein? Des fois...
Elle lève la jambe de droite, puis met la main gauche à terre.
Tiens, genre de twister, là. Et tu sais que, puis à un moment donné, tu te rends compte que tout le monde est rendu... de l'autre côté du tapis et moi, je suis pas encore de ce bord-là, j'ai pas compris. Et là, c'est ça, elle vient se mettre vraiment à peu près à un bras de distance, elle prend ma main, elle se la met sa cuisse, tu sais, puis là, on dirait que j'arrive à comprendre.
À visualiser, comprendre.
Puis là, je suis capable de le faire. Mais quand je fais ça, j'ai aucun moment où est-ce que j'ai le temps de me dire « Oh mon Dieu, t'es donc bien dans le champ, t'es pas dans la bonne position. » Puis elle m'a même dit « Des fois, t'inventes des positions.
Ben, » c'est parfait. L'important, c'est que tu bouges.
Mais moi,
que...
je bouge et je me
c'est
sens
ça.
Bien pendant ce temps-là.
Mais tu sais, le professeur là-bas, Jean-François, lui, c'était magique. Là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, vivre cette expérience-là, parce que lui, il voit, évidemment, mais parfois, il fait les yeux fermés. Puis il est capable de, s'il voit qu'il y a deux, trois personnes qui ont mal compris, ben là, il redit sa consigne. Puis c'est ça, on se faisait des petits sourires des fois, parce que moi, je regardais, je voulais le faire, mais je voulais aussi regarder.
Aussi.
Fait que, c'était vraiment... Puis moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la méditation à la fin.
Et c'est ça
que
j'allais dire.
Il leur a fait faire une... Moi, je me disais, hey, ça marchera.
Mais, oui.
Mais non, ils ont embarqué, puis ils ont dit que par la suite, quand on s'est jasé, c'est que ça leur amène une certaine... On parlait d'hypervigilance,
mais
là, si on veut faire un lien.
Un
là,
apaisement.
Voilà,
mais
ça leur amène un apaisement dans le mouvement, dans la conscience. Puis il y a même Normand qui me dit, moi, quand je suis au gym, maintenant... Je me tiens la tête au ciel et le dos droit. Il dit, quand je suis en attente d'une machine, il dit, on dirait que
il
les
prend
notions
la conscience.
De yoga reviennent au quotidien.
Oui. Puis tu vois, moi, c'est ça, le yoga, c'est vraiment... Tu sais, puis je le vois, là. Je rentre, je suis en hypervigilance, je fais le cours, je suis plus en hypervigilance. Puis après ça, je repars, puis je suis moins en hypervigilance.
Ça l'apaise. Je pense que notre système nerveux, il est sur l'adrénaline tout le temps.
Complètement.
Là.
Puis un peu comme tu disais que la méditation... Puis souvent, c'est ce qu'on dit, la méditation, là. Les gens, là, font ça les yeux fermés, là.
Ouais.
Tu sais, fait que d'emblée, on nous amène vers cette intériorité-là. Mais c'est comme si, quand on a l'handicap visuel, ben là, nous, on est confrontés à... On peut pas ouvrir nos yeux et avoir tout d'un coup une vision parfaite comme des personnes qui voient bien... Mais je trouve tellement qu'il y a un enseignement précieux dans... Tu sais, que nous, en situation de handicap, on peut même transmettre aux gens qui voient, tu sais, de les amener encore plus à aller vers leur intérieur profondément, là. Tu sais, pas juste 5 minutes parce que t'as fermé tes yeux, tu sais. Mais moi, mon idéal, c'est ça, ça serait de pouvoir être dans cet état-là le plus longtemps possible dans une journée. Parce que moi, je sais que... Je grimpe vite.
Oh oui.
J'ai des réflexes.
On est à côté.
Oh oui, puis j'ai des réflexes. Là. Moi, souvent, le monde font comme, mais voyons, mais j'ai des réflexes. J'échappe quelque chose, je suis comme Spider-Man, je le ramasse, je le vois même pas, je sais pas comment j'ai fait. Je l'ai ramassé, je le sais, j'ai vraiment ça. Ça fait que oui, je suis excellente pour gérer des situations de crise. C'est pour ça que j'étais très bonne.
Sauf que tu es tout le temps en crise dans ta tête.
Mais je suis tout le temps en crise dans ma tête et dans mon corps.
Je te comprends tellement parce que moi, j'ai. Ben, le prochain, on va se parler parce que je vais à Vipassana, là. Fait que c'est un choix de 10 jours de méditation.
Mais, justement,
mais le yoga embarque là-dedans, là.
Oui, mais ça, tu vas te challenger, là, parce que là, c'est un 10 jours.
Oui. 10 heures de méditation par jour.
Ça, là. Et ça, je vais vraiment être curieuse d'entendre parce que j'y connais plusieurs personnes qui l'ont fait, pas en lien avec l'handicap visuel, mais à un moment donné, j'en connais qui ont quitté après 2 heures et j'en connais qui l'ont poursuivi et j'en connais qui ont vécu des trucs de transcendance. En tout cas, on a vraiment
hâte. On va
hâte.
Avoir bien des choses à se dire.
Que
mais faites du yoga,
parles.
Ça fait du bien pour la bonne humeur.
Oui, oui, absolument.
Merci,
ben,
Julie.
Merci beaucoup, Mélanie. Et je remercie mes invités, Denise Baudry et Annie Perrault. Et nous, bien, on va se retrouver pour une autre belle émission la semaine prochaine. Merci, Mathieu, à la mise en onde. Bye-bye, tout
Mathieu.
Le monde.